réfléchir au sujet proposé et vous allez voir, l'exercice est extrêmement enrichissant. Donc Laurence sera là pour nous guider, ouvrir des pistes de réflexion, apporter des références, mais ça n'est pas un cours. Encore une fois, j'insiste, c'est vous qui allez construire l'essentiel de la réflexion. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous apprécierez. Si vous avez envie d'être au courant de nos autres activités, vous pouvez nous laisser votre adresse mail et vous recevrez un mail avant chacun de nos événements. Il y a un petit cahier sur un tabouret à l'entrée. Maintenant, ce sera à la sortie quand vous repartirez pour nous laisser vos coordonnées. Je vous souhaite une excellente soirée.
Laurence.
Avant même de commencer, on a l'habitude d'enregistrer les cafés philo. C'est un enregistrement audio que vous pouvez ensuite demander en contactant donc l'association. Sur les flyers de Philomania, vous avez toutes les coordonnées. Alors, la question qu'on aimerait quand même vous poser, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'être enregistré ? Parce que s'il y a une seule personne qui ne le souhaite pas, nous n'enregistrerons pas. Voilà. Est-ce que... Voilà. Non ? Ça vous va ? Ok. Alors, on va commencer. Donc, comme Marie-France Canon, ici présente, vous l'a dit, le but d'un café philo, c'est de débattre d'un sujet, d'une question, d'une thématique qui aura été choisie en commun. Donc, nous commençons toujours par des propositions de sujets, de thématiques. Voilà. Vous pouvez proposer autant de sujets que vous le souhaitez, et ensuite, on passera au vote, et j'en rappellerai à ce moment-là les modalités. Est-ce que vous avez des sujets à proposer, des questions à proposer, des envies à traiter? Nous allons faire passer un micro. Oui, madame. Conditions de travail. Les conditions de travail. Oui. Donc,
dans tout domaine.
Faut-il modifier les conditions de travail ou
justement les améliorer pour qu'on n'ait pas la santé qui se dégrade quand on prend peut-être à la retraite.
D'accord.
Mais l'avant, hein, pour ne pas avoir de handicap.
D'accord. Donc voilà, les conditions de travail, le bonheur au travail, au travers des conditions de travail.
Si on peut y arriver, oui,
mais voilà, peut-on être heureux au travail
simple.
Ouais. Donc, en tout cas, traiter les conditions de travail. Voilà. Faut-il changer les conditions de travail pour pouvoir vivre en bonne santé ? Ouais, longtemps. Oui, madame. Donc, je me pose la question, comment sortir de l'histoire ? Quand elle fige les choses, je parle de l'histoire, aussi bien d'une histoire personnelle que d'une histoire, comme histoire historique, quand elle fige les choses et empêche d'avancer.
D'accord.
Oui. Donc, comment sortir d'une histoire qui fige et qui stagne, qui se répète, peut-être.
Aussi.
Oui. Comment, ou peut-être peut-on même, peut-on, hein, oui, peut-on sortir d'une histoire qui se répète, qui fuge. Oui.
Non, c'est peut-être une question qui se rapproche de celle-ci, justement. C'est comment peut-on sortir d'erreur ? Comment peut-on prendre conscience de son erreur ? Parce que souvent, sortir d'une histoire ou d'un présent, c'est justement prendre conscience de quelque chose, mais la prise de conscience, on en parle beaucoup, mais comment on fait pour justement y parvenir ? Parce que souvent... les arguments ne suffisent pas, même l'évidence, on voit bien autour de nous. Avec les autres, on voit bien que les problèmes, l'évidence ne suffit pas, il n'y a pas de logique, il n'y a rien. Mais ces erreurs que les autres commettent, nous, on les commet probablement aussi sur d'autres thèmes, dans d'autres parties de notre vie. Et justement, il serait, à mon avis, intéressant de voir comment, peut-être en partageant des expériences, comment Comment on fait justement pour, à un moment donné, prendre conscience de ces erreurs et peut-être plus facilement justement ne pas attendre 10 ans, 15 ans ou quelque chose de très particulier pour prendre conscience d'une erreur qu'on fait depuis très longtemps, quoi. Et, dont on aurait pu tirer beaucoup de bénéfices, ça en libérer plus tôt.
D'accord. Donc comment sortir de l'erreur, comment prendre conscience de l'erreur, mais peut-être plutôt comment sortir de l'erreur, quoi.
Oui, oui, sur le plan, sur le plan personnel, et pas sur le plan mondial,
avec
même une société déjà, sur le plan personnel, comment
voilà.
Une personne peut...
Comment prendre conscience de l'erreur et sortir de l'erreur. Oui. Oui, monsieur.
Peut-on évaluer la valeur artistique d'une œuvre objectivement ?
Peut-on évaluer la valeur artistique d'une œuvre objectivement ? Oui, madame ?
Le regard des autres sur l'âge qu'on a en tant que personne âgée. Quand on dit son âge, il y a toujours des étonnements, des réflexions. Comment, par rapport à ça, j'ai des questions, des questionnements.
Oui. Comment vit-on le regard des autres ?
Non, c'est pas comme. C'est plutôt chez les autres, comment. Ils vivent le vieillissement, en fait.
D'accord. Donc, quel rapport peut-on entretient-on à la vieillesse ?
Non. Quelle image renvoie-t-on ?
Quelle image renvoie-t-on lorsqu'on vit ?
On dit, par exemple, j'ai 90 ans,
oui.
Par exemple. Et les gens, ils sont absolument... Vous êtes en pleine forme, tout ça. Les gens sont complètement effarés. Oh, tu ne devrais pas faire ceci. Voilà. C'est plus le regard des autres, l'attitude des autres par rapport aux gens qui vieillissent.
D'accord. Oui. Donc, le rapport, voilà, à la vieillesse. Hein. Quel rapport entre les gens à la vieillesse Oui.
La philosophie, un jeu d'enfant.
Point d'interrogation.
Point d'interrogation.
La philosophie de point un jeu d'enfant. Point d'interrogation. La vie a-t-elle un sens ? La vie a-t-elle un sens ? Oui. Je vais passer un micro.
Non, je vais parler fort. Le libre arbitre est-il une illusion ?
Le libre arbitre est-il une illusion ? Le libre arbitre est-il une illusion ? Donc, on peut peut-être définir le libre arbitre assez rapidement. Qu'est-ce que vous entendez par libre arbitre ?
Le libre arbitre, bah, dans le sens où. La volonté et les actions qu'on fait sont originaires de nous. C'est de notre propre volonté qu'on choisit ce qu'on fait.
Mmh.
Et donc dans le sens, est-ce que c'est compatible avec, par exemple, une vue déterministe de la vie, comme quoi ce serait juste les conséquences de son passé.
Donc on pourrait peut-être le reformuler sur l'idée, la liberté est-elle une illusion ? Ça irait ? Peut-on choisir librement ?
Pas forcément, parce que la liberté, ça pourrait être juste de pas être contraint par les autres ou pas être empêché.
Mm-hmm.
Le libre arbitre, ce serait vraiment que nos actions prennent leur essence dans notre propre volonté.
Sommes-nous maîtres de nos actions ?
Oui, si on veut.
Ah, ça serait ça l'idée. Voilà. Donc, dans cette question, le libre arbitre est-il une illusion ?
Mm-hmm.
D'accord. Oui. Ce qui nous donne quand même un certain nombre de questions. Là, Marie-France, on en est à combien ?
On est à 8.
8 ?
On peut passer.
Voilà. Alors, chaque question va être reproposée et reformulée. Marie-France nous les a prises en note. Et ensuite, vous pouvez voter autant de fois que vous voulez pour les questions que vous souhaiteriez voir traitées ce soir. Voilà. Donc, première question, Marie-France.
Alors, les conditions de travail.
Oui.
Et l'épanouissement.
Voilà. Donc, quelles conditions? Je ne sais pas pourquoi ça vous est dit. Il doit y avoir des interférences. Je vais essayer de la mettre ici.
Parce
qu'en fait,
oui.
Quand il fonctionne, c'est pas ici. Oui,
mais en même temps. Oui,
je pense. Oui. Ça va? Voilà, donc... Je.
Pour les
gens, ça fait. Mets-toi là, Laurence. Là, plus, ouais. Je vais essayer. Voilà. Donc, les conditions de travail et l'épanouissement au travail pour pouvoir vivre longtemps. Alors, vous levez la main, je compte. Et voilà, qui souhaiterait voir traiter cette question ce soir? Encore une fois, vous pouvez voter autant de fois que vous voulez. Hein, donc, ne vous en privez pas. 9.
Là, j'ai éteint le mien.
Moi, j'ai éteint le mien.
Non, je crois.
Ah, tu t'as fait plus personne.
Alors, comment sortir de l'histoire quand elle fige et empêche d'avancer?
Donc, comment sortir de l'histoire
quand elle fige et qu'elle empêche d'avancer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Comment prendre conscience de son erreur et en sortir. Comment prendre conscience de son erreur et en sortir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Peut-on évaluer la valeur artistique d'une œuvre d'art objectivement? Peut-on évaluer objectivement la valeur d'une œuvre d'art? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le regard des autres sur la vieillesse. Le regard des autres sur la vieillesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La philosophie est-elle un jeu d'enfant? Philosophie est-elle un jeu d'enfant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La vie a-t-elle un sens? La vie a-t-elle un sens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et Et enfin, le libre-arbitre est-il une illusion ? Le libre-arbitre est-il une illusion ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Bingo! Alors, il est d'usage de commencer ce café philo en se tournant vers celui ou celle qui a posé la question. Pourquoi une telle question?
En réalité, moi je suis assez consommateur de contenu philosophique, mais je ne construis pas forcément de pensée moi-même. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse. En fait, moi j'ai une vision assez déterministe du monde, comme quoi en fait toutes nos actions au présent sont juste le résultat sont juste les conséquences en fait du passé. Et le libre arbitre, suivant comment on le définit, en fait c'est suivant comment on le définit, on peut, et ça peut être compatible ou pas avec ce déterminisme là. Donc soit c'est une construction parce que on en a besoin pour vivre en société, et il faut attribuer aux gens en fait leurs actions à eux-mêmes, à leur volonté, parce que si on dit que tout est le résultat du passé en fait, et que c'était déjà déterminé avant qu'ils naissent, dans ce cas ils doivent pas être responsables. Ou alors le libre arbitre, ce serait juste que voilà, un peu dans le sens de la liberté, il n'a pas été contraint à faire quelque chose, et il était conscient et pleinement en possession de ses moyens à ce moment-là de faire cette action. Et dans ce cas-là, on peut dire que oui, il est responsable de ses actions, dans le sens, c'est pas ses actions sont pas le résultat de son propre, indépendamment. Du tout, il n'est pas indépendant de tout ce qui a pu se passer et de son environnement, mais on peut quand même attribuer ses actions à lui, à lui-même, et pas juste au passé.
Donc en fait, l'intérêt de la question, c'est le problème de la responsabilité. Si je comprends bien, parce que soit, effectivement, il y a un libre arbitre, et l'individu est pleinement responsable de ses actes, autonome. Soit on dit que les choses sont peut-être pas aussi simples que ça, et qu'effectivement, si on a fait tel choix ou si on a fait telle action, c'est qu'il y a des raisons qui justifient ces actions. Et donc, à partir de là, est-ce qu'on peut encore penser l'individu comme responsable de ce qu'il fait ? C'est toute une remise en cause du droit, en fait.
Oui.
Ah, rien que ça. Ouais. Alors, d'après vous, effectivement, est-ce que nous sommes maîtres de nos actions, autonomes, totalement responsables, ou est-ce que il y a une grande part de nos pensées, de nos actes, de nos choix qui sont causés par des éléments antérieurs, le passé notamment, qui fait que nous ne pourrions pas agir ou être autrement que ce que nous sommes.
Il y a aussi des gens qui ont pensé qu'on était déterminé non pas par notre passé, mais par un au-delà. L'hérésie cathare au Moyen-Âge pensait que c'était le déterminisme total, et il y a des milliers de personnes qui ont accepté de mourir au nom de cette hérésie.
Un peu une idée d'un destin.
Oui.
Ouais, il y aurait un destin. Oui, tout à fait. sommes nous destinés.
Oui.
Alors, du coup, voilà, moi ça m'évoque cette notion, je ne vais pas faire ma maligne, l'habitus qui avait quand même été développé par Pierre Bourdieu, grand sociologue, c'est-à-dire cette idée que on vit dans une société, dans un milieu particulier, on n'écoute pas tous la même musique, on ne lit pas tous les mêmes magazines, on n'a pas les mêmes loisirs. Donc ce serait l'idée qu'on serait quand même en partie déterminé par ces habitudes, c'est-à-dire ces tout petits schémas de vie, voilà, tout cela nous déterminerait. Alors maintenant, moi je pense qu'on n'est pas totalement déterminé, qu'on peut s'en sortir. Alors il y a ce déterminisme-là qui serait un peu sociologique, et puis aussi on peut penser à un déterminisme psychologique. Est-ce que sur le plan de la psychologie, on est, je dirais, complètement pris par son histoire, par les parents, par son éducation, voilà. Peut-être le problème il peut être posé, en tout cas. Moi, mes deux échos, c'est ça, un écho sociologique sur l'habitude, et puis un écho psychologique.
Alors c'est vrai que l'habitus chez Bourdieu est très intéressant parce qu'il détermine une certaine nos comportements en fait. Il nous permet de saisir, c'est-à-dire de prendre conscience la manière par laquelle on peut se comporter, on peut juger, on peut évaluer les personnes que l'on va fréquenter ou pas. Voilà. Et donc, effectivement, l'idée, par exemple, assez simple, qu'on serait le produit de notre classe sociale, voilà, déjà, voilà, voilà. Et donc, à partir de là, ben, on a les goûts, les modes de pensée, voilà, les façons de voter, enfin, on peut aller loin, hein, qui nous auraient été transmis. Alors, c'est intéressant, hein, parce que sans nécessairement qu'on s'en rende compte. C'est ça l'intérêt de saisir ce qu'il en est de l'ordre de l'habitus, c'est que voilà, nous ne vivons que par habitus. Et l'idée de Bourdieu, c'est de dire, en fait, pour faire quelque chose, il nous faut accéder à un habitus. En fait, c'est la pratique qui va nous former, ne serait-ce que si je veux faire un instrument de musique, il va me falloir déjà pratiquer, par exemple, faire des gammes, etc., pour pouvoir intérioriser, en fait, toute une logique comportementale, la logique artistique, et pouvoir devenir un artiste. Donc, nous ne serions rien sans habitus, de façon à la fois très, très, très inscrite dans le détail et de façon très générale. Et du coup, on pourrait se dire que effectivement, l'habitus, c'est ce qui va nous amener à structurer notre mode de pensée et notre mode d'être de la manière dont ça l'est, d'où le déterminisme psychique qu'on peut retrouver en psychanalyse. Qui suis-je? D'une certaine manière, je ne suis que le produit de mon histoire. Voilà. Hein? Donc oui, peut-on se libérer, par exemple, de son histoire? C'est une grande question.
Ouais. Il faut bien parler avec le micro comme ça devant, parce que si on fond les gens ont du mal à entendre des trucs comme ça, c'est plus tout pareil. Voilà, c'est un peu plus fatigant. Enfin, les muscles avec la tête.
C'est aussi le regard qu'on va à nouveau c'est parce qu'on va changer un petit peu son regard qu'on va pouvoir évoluer aussi. C'est cette petite marge qui existe de liberté qui fait qu'à un moment donné, si vous me dites « Ah ben, vous marchez toujours à droite », vous m'apportez une information qui va me faire penser que effectivement je marche à droite. Alors peut-être qu'il y a autre chose que la droite, peut-être qu'il y a la gauche, si vous me dites. Donc il y a bien quand même quelque part... Même tout petit, même pas forcément des choses très... Enfin, mais il y a quand même la possibilité à un moment donné de changer le regard. Qu'est-ce qui va aussi faire qu'on va changer le regard? C'est aussi les autres, le regard des autres. Pour Dieu, oui d'accord, enfin l'habitus et tout ça, oui bien sûr. Mais il y a quand même cette capacité à un moment donné qu'on a tous, peut-être grâce aux autres, peut-être grâce à vous, là justement, à dire, ben là, je vais
hop, changer un tout petit peu. Quelqu'un me dit quelque chose, j'entends, je sens, je ressens, j'ai quelque chose qui va être vigilant enfin, par rapport à ce que l'on vit et qui va faire qu'on va changer notre regard et qu'on va pouvoir ben, ne plus marcher tout le temps à droite, mais peut-être un petit peu à gauche de temps en temps, ou peut-être on va marcher à gauche, ou on va mélanger, on va apprendre de la liberté à ce moment-là.
Alors à partir de là, on pourrait dire justement que si liberté il y a, ce serait dans cette capacité de se détacher, voilà, de ce qui, de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons ou de la manière dont nous pensons ou agissons, c'est-à-dire le fait de ne pas adhérer hein, à ce que l'habitus a fait de nous. Hein. Ouais.
Ça peut se retrouver aussi en science, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un va avoir une nouvelle façon de penser bon, par exemple, la Terre est plate. Alors, c'est idiot, hein, comme exemple, là, peut-être. Mais c'est juste pour montrer. Tout le monde pense que la Terre est plate. Et puis, il y a quelqu'un qui dit... ben non, là, il y a un petit peu d'horizon, il y a un truc un petit peu rond là-bas, ça veut peut-être dire que la Terre, elle est peut-être autre chose que plate. Donc, c'est quelque chose qui va se faire dans tous les domaines, ça, de pouvoir avoir juste ce petit espace qui fait qu'on regarde un peu différemment.
Est-ce que ça ne serait pas aussi la capacité à pouvoir remettre les choses en doute
Oui, je voudrais distinguer entre le libre arbitre, mon libre arbitre, et le libre arbitre des autres. C'est-à-dire que si je parle de mon libre arbitre, c'est complètement illusoire. J'ai une certaine éducation, j'ai une certaine lecture, etc. Si je parle de libre arbitre des autres, par exemple, le libre arbitre sur ce que dit le GIEC par rapport au climat, si je fais confiance aux scientifiques, là, je vais être d'accord qu'il y a un libre arbitre.
Dans quel sens?
Il y a une indépendance et une vérité qui, pour moi, est vraie.
Donc la capacité qu'aurait, par exemple, le GIEC à dire vrai, les poserait dans une forme d'indépendance, par exemple par rapport au pouvoir politique ou économique, et c'est dans cette indépendance que résiderait notre capacité à être libre. C'est ça? Oui.
Question. Ça marche? Un peu?
Ça gagne.
Bon. Très. Vitré.
Oui.
Donc dans la question, est-ce que le libre arbitre est une illusion bon, on a beaucoup parlé de libre arbitre et on parle aussi d'illusion. Donc l'illusion, ça voudrait dire que on n'est pas conscient, en fait, de ce qui motive nos décisions. Voilà. L'illusion, on croit être libre et puis finalement, on est motivé par l'habitus ou par tout un tas de choses qui nous oriente et en particulier notre histoire, notre éducation et le système de valeurs dont on a hérité. Et on est, pour le meilleur et pour le pire, enfermé là-dedans. Pour le meilleur souvent, hein, faut pas. Sociétés humaines ne se sont pas construites que sur des horreurs, hein. Il y a aussi beaucoup de choses qui permettent de vivre en commun. Et alors, si c'est une illusion, ça veut dire qu'il y a un moment où on va prendre conscience que c'est finalement on était dans l'illusion d'être libre et puis on va se poser la question de changer. Est-ce qu'on change? Alors si on décide, il y avait un autre sujet proposé sur les erreurs, mais si on a constaté qu'on a fait des erreurs, ben, ça veut dire qu'on a appris quelque chose et on est légitime à changer. Et à ce moment-là, on a le choix dans la prise de décision entre la liberté et l'obéissance. On a parlé du GIEC et de la confiance. Donc, pour obéir, il faut faire confiance. Si le chef me dit « faites ça », et que j'ai confiance dans le chef, et que je crois légitime pour dire ce qu'il dit, je suis tranquille, je suis en sécurité. Je vais obéir, je vais prendre zéro risque, je vais faire ce qu'on m'a dit, Et puis si ça foire, ben, je ne suis pas responsable. Donc, qui dit obéissance dit irresponsabilité. Et puis d'un autre côté, si je dis non, c'est des conneries, il faut que je suis libre et je vais faire autrement, donc je prends un risque. Et à partir du moment, enfin, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de responsabilité s'il n'y a pas de risque. À partir du moment où la prise de responsabilité implique le risque. Et à ce moment-là, ben, on s'expose soi-même, on s'expose à quelque chose qui peut être dangereux. Donc on est toujours à peser entre le côté du conformisme et donc du non-libre arbitre ou de la prise de risque personnelle. Mais il faut aimer le risque. Voilà, c'est ma conclusion.
C'est bon. Parce que j'ai une grosse voix. Je suis pas d'accord avec vous au niveau du choix. Pour moi, le choix, ça fait pas partie du libre arbitre, parce que c'est un calcul qu'on fait entre le pour et le contre, et on se dit on va plutôt choisir cette destination ou celle-là en fonction de comment notre jugement est fait. Pour moi, le libre arbitre, c'est là où je voulais rebondir sur ce qu'a dit Anthony, mon voisin, avec son sujet. C'est comment on définit l'improvisation dans ce cas-là. Est-ce que tu me dis que c'est pas du libre arbitre? Parce que quand on est face à des choses qu'on a connues ou qu'on a un peu de conscient à l'intérieur de nous qui nous dit « Ah, j'ai déjà vécu ça, donc je peux faire ça », mais face à une situation complètement désespérée, inconnue, comme demander à un enfant qui n'est jamais allé dans un autre pays à quoi ressemble la Géorgie, il va devoir improviser, imaginer, utiliser son imaginaire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu me dis pour dire que c'est pas du libre arbitre ce qui va nous représenter? L'imagination, elle ne va pas venir d'un endroit qui va être nourri par son passé ou par quelque chose qu'il peut imaginer. Bien sûr, il va imaginer peut-être une maison, parce qu'il a déjà vu une maison, mais à partir de là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'est le libre-arbitre? Est-ce que l'enfant qui naît à la première seconde, dans ce cas-là, c'est là qu'on a du libre-arbitre, et dès sa première mémoire, dès qu'il va mémoriser la première chose qu'il a dans sa vie, il l'est plus, il n'a plus de libre-arbitre? Et dans ce cas-là, oui, ce serait une illusion. Mais est-ce qu'on est allé chercher dans le cerveau des gens aussi loin que ça? Je ne pense pas.
Oui, bonsoir. Moi, je pense qu'il y a même des choses qui sont déjà écrites dans le passé. Ça s'écrit dans le passé, mais que c'est à nous, en fait, de réécrire les choses. Et à partir du moment où on n'est plus en pilote automatique et qu'on prend conscience de certaines choses, on peut se détacher de ses croyances, de ses conditionnements se réinventer et se détacher, se libérer de tout ce poids qui ne nous appartient pas.
J'aime beaucoup l'expression lorsqu'on est plus en pilote automatique, c'est ça?
Oui.
Ce qui voudrait dire en fait que la majorité du temps, voilà, la passion, donc la majorité du temps, on vit en fait sans véritablement prendre conscience de ce que l'on fait. Hein. On vit parce que c'est le quotidien. C'est la routine, il y a du bon dans la routine, hein, mais on fait des choses, on se lève le matin, on va faire son café, tranquillement, de la même manière tous les matins, sans trop s'interroger en fait sur ce que l'on fait. Et plus on rentre des fois dans des logiques d'automatisme, plus le geste est sûr. C'est ça aussi qui est extrêmement étonnant, donc on ne se trompe pas. J'aime beaucoup aussi cette expression de Leibniz, c'est un philosophe du XVIIe qui disait on est automate dans les trois quarts de nos actions. Alors, j'aime bien les trois quarts parce que du coup ça veut dire quand même qu'il y a un quart. Il y a un quart où on n'est pas nécessairement dans une logique de l'automatisme. Alors du coup, qu'est-ce qui agit en nous? Est-ce qu'il y aurait une faculté qu'on aurait peut-être à la naissance? Effectivement, et qui ferait que on saurait faire face à l'imprévu, voilà, avec une logique de créativité. Ça serait ça le libre arbitre, ce serait la capacité à pouvoir introduire du nouveau. Hein, ça pourrait s'interroger, oui. Et donc faire que on s'adapterait ou qu'on serait capable de générer, d'introduire quelque chose de nouveau dans le monde. Ouais. Ouais.
Moi, je vais parler un petit peu dans la suite, modestement.
revenir justement sur cette question de responsabilité. Moi, j'ai quand même du mal à penser qu'on est des êtres individualisés. On est dicté peut-être par notre éducation, par la culture dans laquelle, la société dans laquelle on vit, la culture dans laquelle on vit. Ça, c'est sûr. Mais on est des êtres doués de raison. Et cette raison-là, on peut très bien choisir de rester. À partir du moment où on a pris conscience et où on réfléchit, et on prend du recul par rapport à nos actions, on peut très bien décider de rester dans une certaine ligne, dans le cadre que l'on nous a finalement enseigné, dicté, dans laquelle on a toujours vécu ou que on nous impose. Mais on peut aussi prendre des chemins de traverse et on ne peut pas s'affranchir de cette responsabilité. C'est quand même notre responsabilité. Après, on a la possibilité physique de faire ou de ne pas faire. On peut être limité par des questions financières, par des questions diverses. Mais à partir du moment où on en a pris conscience, on est quand même en capacité d'agir. J'ai du mal à me dire qu'on n'a pas cette responsabilité. Et que à partir du moment où on est on a été élevé d'une certaine manière. Non, moi je pense qu'on a une responsabilité qui de toute façon est là. Et qu'on a un libre arbitre, même de rester dans le cadre.
Parce que si je reste dans le cadre, c'est un choix.
C'est un choix.
C'est un choix.
Oui, c'est ça.
Je pense que nous sommes en. J'ai tendance à dire que nous sommes le fruit de quatre choses. La première, c'est notre conscience. C'est-à-dire que je vais raisonner, je vais faire des choix, je vais faire deux colonnes, ça c'est mon mental. Et puis il y a notre disque dur. Et dans notre disque dur, il y en a trois. Il y a l'inconscient qui est le mien. Et nous avons chacun notre inconscient. Et l'inconscient, il s'est construit avec notre histoire depuis notre gestation, ce que j'appelle l'inconscient personnel. Mais il y a aussi l'inconscient familial, c'est-à-dire je suis le fruit d'une histoire familiale et je porte des choses de mon histoire familiale sans en avoir absolument aucune conscience. Et la quatrième partie, c'est l'inconscient collectif, qui est le fruit de l'histoire de l'histoire, avec un grand H.
Alors, pour moi, donc le libre arbitre est une illusion dans le sens où on n'est pas conscient de ce qui nous détermine, mais je suis compatibiliste dans le sens au niveau de la responsabilité. On peut dire que quelqu'un est responsable sans considérer qu'il aurait pu faire autre chose. Juste pour revenir, je vais répondre à certaines choses. Par exemple, le fait de dire marcher à droite. Après, on nous dit qu'il existe aussi la gauche et on marche à gauche. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle n'était pas déterminée du coup à nous le dire? Et dans ce cas-là, c'est juste que c'est un enchaînement. Et oui, ça nous a changé, mais en fait, ça devait arriver. Parce que cette personne devait nous le dire, et donc on devait changer à ce moment-là. Et pour ceux qui parlent du fait qu'on puisse prendre du recul, qu'on puisse prendre conscience de certaines choses, oui, mais quand est-ce qu'on arrive à ce stade-là? Est-ce qu'il ne faut pas être prêt à prendre du recul? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait eu des prérequis, en quelque sorte, que dans notre vie, ce soit passé des choses qui nous fassent prendre conscience, qui fassent qu'on soit prêt à changer. Et dans ce cas-là, si ça n'arrive jamais, est-ce qu'on ne changera jamais? Et donc, on n'est pas... on a changé parce qu'on a pu, mais surtout parce qu'on devait changer à ce moment-là. Et donc, au final, pour moi, on reste déterminé. En fait, on a notre conscience, mais... on est juste des machines Et en fait, tout ça, c'est chimique. Des hormones, des signaux électriques, etc., des atomes. Et donc, on est des machines et on est déterminé. Mais c'est juste qu'on est des machines très, 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 très complexes et qu'on n'a pas conscience de tout ce qui a pu se passer, de tout ce qui a pu nous déterminer, mais on l'est, c'est tout. Voilà.
Oui. Merci pour cette idée proposée, de changer d'être riche. Et vous avez dit qu'il aurait pu faire autrement, autre chose. Et la justice, les tribunaux, tous les jours, rendent justice et déterminent la responsabilité des gens qui auraient pu faire autre chose. Est-ce qu'ils étaient libres de faire ou pas faire? Et justement, c'est très complexe. Et je crois que le libre arbitre va de la pair, justement, avec la prise de conscience de l'impact que nos actes ont. Et si vraiment on se pose la question de savoir que mon acte, mon geste, il a un impact sur quelqu'un d'autre ou sur la société, là je pense qu'on pourrait agir avec un libre arbitre. Mais ce qui arrive, c'est que la plupart du temps, on ne pense pas. Et que, justement, comme on dit notre collègue, et on met le pilote automatique et on roule. Et là, ça crée des impacts à droite et à gauche, et on se retrouve ensuite à rendre compte de la responsabilité sur laquelle nous avons engagé notre libre arbitre. Et c'est une illusion pour la plupart du temps, pour la plupart des gens, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a de l'impact sur nos actes. Mais pour certains, pour la complexité de la prise de décision de chaque acte qu'on prend, je pense que le libre arbitre a sa place. Et à chaque fois, si on s'arrêtait à penser un peu plus, on pourrait déterminer que le libre arbitre existe, mais ce n'est pas une illusion. D'ailleurs, les tribunaux, quand ils vont rendre justice, condamner quelqu'un, ils vont faire l'examen de la personnalité du sujet. Et c'est en rendant après un examen social de la personne qu'on se rend compte que cette personne, justement, a été déterminée par un poids de la société, de la famille, de la situation économique, etc., qui ont conduit à, pas une prise de décision, mais plutôt à une réflexion, à un geste irréfléchi qui l'ont conduit devant les tribunaux, et donc sa responsabilité va être engagée par ces actes.
Il me semble qu'on parle du libre arbitre un peu comme une faculté qui nous serait attribuée et qu'on aurait à exercer. Personnellement, je pense que s'il y a libre arbitre, c'est plus une construction suite à une réflexion. Je vais concrétiser cela avec l'acte de consommation, et je vais reprendre une expression qui a été utilisée tout à l'heure, c'est aller chercher dans le cerveau. Quand on consomme, c'est pour soi, et on pense faire un acte qui ne nous concerne que nous. Or, en fait, si dans le contexte, il y a bien toute une machination, qu'on appelle la publicité, où effectivement, on utilise les neurosciences, etc., pour arriver à nous déterminer à accomplir cet acte d'achat plutôt qu'un autre. Donc, alors que nous pensons se faire plaisir en faisant cette acquisition-là. Or, c'est, il me semble, et là, bon, le libre arbitre est une illusion dans ce que je décris. Et il me semble que c'est à partir du moment où je suis informé de cette situation, où je m'informe sur le contexte général de mon acte d'achat, etc., sur les produits, etc., enfin bon, l'ensemble des informations, que je commence à construire mon libre arbitre et à exercer effectivement un choix responsable que, bon, on peut appeler libre arbitre. Mais c'est ce travail qui permet de construire cette possibilité de libre arbitre.
Et c'est là où ça devient intéressant, parce que en fait, on s'aperçoit que le libre arbitre ou la liberté, elle ne serait pas antinomique avec le déterminisme. C'est-à-dire, c'est quand je prends conscience de ce qui me détermine qu'alors je parviens effectivement à m'en détacher et à pouvoir exercer mon être libre. Alors là où ça serait intéressant, c'est de voir aussi que du coup, dès qu'on parle de déterminisme, dès qu'on dit qu'on est causé, on a le sentiment, comme le pilote automatique, qu'on est toujours dans une continuité de quelque chose dont on n'arrive pas à se détacher en fait. On est presque pris dans un flux qui nous entraîne indépendamment de nous et indépendamment aussi du fait que nous puissions en prendre conscience. Et à partir du moment où on commence à parler de liberté, la liberté, ça ne serait pas tant faire ce que je veux, quoi, parce que mon vouloir peut être causé par différentes choses, mais ça serait cette capacité d'introduire une discontinuité. C'est-à-dire tout d'un coup de rompre cette continuité liée à mon inconscient personnel, l'inconscient, enfin mon héritage familial, l'inconscient collectif, et cette capacité de faire rupture, voilà, de rompre quelque chose, voilà, de rompre ce qui fait continuité, de rompre la cause. Et du coup, là encore, le fait de pouvoir dire que nous sommes libres parce que nous sommes des êtres de raison et que nous sommes responsables nous amènerait peut-être à faire une distinction entre la cause et la raison. C'est-à-dire, quand je suis en pilote, lorsque je suis en pilotage automatique, c'est que tout ce que je fais, ce que je peux penser ou la manière que j'ai de me comporter, effectivement, c'est causé par différents types de causes, hein, psychologiques, sociologiques, économiques, ou autres, propagandistes ou autres. Mais à partir du moment où le libre arbitre apparaît, c'est que c'est plus les causes qui me déterminent, c'est ma raison qui me contraint à donner des raisons à mon acte. Je me dois de me justifier en donnant les raisons de mon comportement. Et c'est là, et c'est à partir du moment où on quitte la logique de la cause pour rentrer dans la logique de la raison, qu'effectivement va intervenir la notion de responsabilité. Oui. Oui.
Alors justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, le droit, en tout cas français, reconnaît deux types de situations dans lesquelles on peut ne pas prononcer de peine. Le premier cas, c'est l'état de nécessité, où on peut justifier d'avoir volé de la nourriture, par exemple, parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est reconnu depuis le 19e siècle. Et l'autre cas, c'est l'article 122, alinéa 1 du Code pénal, qui dit qu'il n'y a ni crime ni délit dans le cas où on a été poussé par une force supérieure, etc. Donc l'état de raison, c'est le libre arbitre, qui fait qu'on a fait un choix, mais on ne fonctionne pas. Et le deuxième cas, c'est le contraire même du libre arbitre, puisqu'on a été poussé par une force à laquelle on ne pouvait pas résister.
On a parlé de raison, et ça me fait penser à une belle phrase, je crois, de Paul Valéry. La raison gouverne, mais l'inconscient règne. Parfois, on a l'impression de... Voilà, on va raisonner, mais en fait, on raisonne et derrière nous, l'inconscient nous pousse déjà vers une solution vers laquelle il veut aller. Et ça, une fois de plus, c'est très facile de voir ça pour les gens autour de nous, mais malheureusement, on est aussi sujet à ce comportement. La deuxième chose, il y aura beaucoup de choses à dire hein, sur ce que vous avez dit, mais effectivement, on est en pilote automatique et on pourrait se forcer à penser, effectivement aussi, se forcer à penser, ou du moins en avoir envie. Mais pour en avoir envie, il faut certaines conditions, il faut se sentir bien, il faut être capable de se poser, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ce qui n'est pas toujours le cas pour certaines personnes, parce que justement, quand on a des soucis, soit de santé, soit financière, soit avec ses enfants, soit etc., c'est difficile de prendre de recul, de laisser la pensée se poser pour pouvoir justement avoir une vision claire autour de nous, parce que Il faut déjà avoir une vision claire des choses pour pouvoir penser le monde et les choses. Si on n'arrive pas à les voir avec un œil et une conscience apaisée, forcément, avec une vision déformée, on ne peut pas penser les choses correctement. Et en plus de tout ça, non seulement bon, il y a notre vie qui peut être compliquée, mais il y a des gens autour de nous qui vont essayer de nous empêcher de penser. Et là, c'est intéressant parce que justement, dans le monde de communication et le monde politique actuel fait tout pour nous empêcher de penser. Alors, comment on fait pour nous empêcher de penser ? Ben, au lieu de nous apaiser, on nous bombarde d'informations pour jouer sur notre émotion. Et plus on est dans des émotions fortes, moins on est capable de penser. Ça, on est tous capables de le remarquer. Quelqu'un qui est sur un grand 8, il va pas avoir une pensée profonde à ce moment-là. C'est pas là. Et quand on est dans une grande peine, c'est rare que, ou dans l'urgence, c'est pas dans ces moments-là qu'on pense le mieux. Et peut-être que le problème, c'est là le problème de toute notre société, c'est que il y a beaucoup trop de choses qui sont faites pour empêcher les gens de penser et pour qu'en fait on ne soit pas dans une situation où on puisse justement être apaisé, penser et ensuite user correctement de notre libre arbitre. C'est tellement plus facile d'essayer de nous manœuvrer comme des moutons. Mais nous, comme non. Une fois de plus, on le voit beaucoup, on le voit très facilement pour d'autres sociétés. Hein. On nous parle beaucoup de la propagande russe, on nous parle de la propagande chinoise, on nous parle mais... Est-ce que nous, on est forcément dans un monde parfaitement libre et sans propagande ? Voilà, on peut se poser la question. Ou alors peut-être qu'on est complètement dedans aussi et qu'on ne le voit pas. Et sinon, s'il y a quand même quelqu'un qui a déjà dit ça il y a très très longtemps, il me semble, peut-être que je l'interprète mal, mais c'est pas une religion, mais justement, le Bouddha, il amenait les gens justement à prendre du recul, à méditer, ce qui veut dire finalement prendre du recul, essayer de se calmer et d'essayer de voir les choses telles qu'elles sont, et justement pour peut-être mieux penser les choses, s'apercevoir de ce qui ne va pas, de ses erreurs, changer de comportement. Et moi c'est un petit peu comme ça que j'interprète ce qu'il dit. Il ne prétend pas être un surhomme, mais simplement aider les gens aussi autour de nous à être plus en mesure de penser, et quand on pense bien, après on vit mieux. Et
qu'est-ce que c'est le mieux penser ?
Et on nourrit le libre arbitre des gens, et la possibilité de mieux penser que les autres pensent mieux aussi. Il me semble que c'est un cercle vicieux. Quand les choses vont bien, d'ailleurs on le voit dans des familles ou des groupes entiers, les gens pensent plus ou les gens ne pensent pas du tout. Parce que soit entre eux c'est la guerre, ou c'est la suractivité, mais les gens qui pensent, ça forme des groupes. Hein. Il y a des gens entiers qui pensent et d'autres qui ne pensent pas. Hein. Mais bon, malheureusement. Enfin, désolé, j'ai été un peu long.
En tout cas, ce qui serait intéressant, c'est de dire que pour penser, encore faut-il prendre le temps de penser. Et que souvent, ce qui nous empêche de penser, c'est qu'on est pris dans un rythme de vie qui va tellement vite. Voilà, on est dans une logique telle de l'accélération où tout doit rentrer dans une logique d'efficacité, de productivité. Il faut toujours être le meilleur, qu'on est pris dans un système qui effectivement, encore une fois, nous entraîne et nous empêche ce retour sur nous-mêmes qui rend possible l'acte de pensée. Ouais. Le temps. La liberté, donc, serait à penser en rapport avec le temps. Pour que le libre arbitre puisse se déployer, encore faudrait-il que le temps puisse s'arrêter. Prenne le temps.
Oui, moi je voudrais dire que la pensée seule ne suffit pas si on n'a pas le savoir avec. Voilà. Parce que la pensée seule est très limitée, en final. Et donc, si on n'a pas les connaissances pour élargir tout ça, c'est même pas la peine pour la pensée. Ça reste une autre vie, une autre opinion. Au final, c'est un peu limité.
Et on viendrait à cette idée que le libre arbitre se construit. par un apprentissage, justement, par un accès au savoir, par un dévoilement des mécanismes qui nous conduisent.
Oui. Oui, moi j'ai tendance à penser que nous sommes effectivement très déterminés et que c'est tout un travail. Alors, je ne crois pas qu'on puisse jamais se libérer des déterminismes. Je crois qu'au mieux, en prenant le temps, par la méditation, avec la psychanalyse, avec toutes les techniques d'exploration de soi, le mieux que l'on puisse faire, c'est d'introduire un petit peu de « je », mais au sens mécanique du terme « je », « j », « eu », dans ces déterminismes. Mais je ne crois pas qu'on n'arrive jamais à se libérer de tous ces déterminismes.
Madame.
On vit en société, et moi j'ai l'impression d'avoir mon libre arbitre quand je m'arrête au feu rouge, quand je mets mon clignotant, quand je m'arrête quand il y a quelqu'un qui traverse. Voilà, je pense que à partir du moment où on est en société et on fait attention à l'autre, on est aussi, alors je ne sais pas si je suis complètement déterminée ou manipulée, qui est le grand manipulateur derrière tout ça, j'y crois pas moi ça. Je crois que vraiment on a la capacité, effectivement, qu'on soit intelligent, qu'on ne soit pas intelligent, d'être dans une relation à l'autre, et là-dedans, il y a du libre-arbitre. On fait attention, on ne fait pas attention. Et c'est quand même quelque chose qui est de notre propre volonté, de notre propre essence.
Moi, okay. Moi, du coup, avec tout ce que vous avez dit, ça me fait beaucoup réfléchir et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que le libre arbitre ? Tu m'embêtes avec cette notion, parce que libre, être libre, c'est un jugement. C'est, il faut mesurer la liberté de quelqu'un. Quelqu'un décide qu'il est libre parce qu'il peut voter la personne qu'il souhaite, par la démocratie ou ce qu'on veut. Quelqu'un est libre parce qu'elle s'arrête au feu rouge, qu'elle respecte le code de la route, parce que c'est important pour elle. Mais il y a des gens qui traversent le feu rouge. Je ne sais pas s'ils ont un libre arbitre, ces gens-là, du coup. Donc, je trouve que c'est vachement personnel, vachement centré sur soi, de dire je suis libre de faire ça. Et maintenant, j'ai envie de te demander pourquoi le deuxième mot c'est arbitre, c'est qui l'arbitre du libre arbitre ? C'est-à-dire, si moi j'ai envie de faire un truc sans aucune raison demain, parce que j'ai ma liberté de choix, qui est-ce qui va être arbitre du fait que j'étais libre, j'étais dans ma pleine liberté, arbitrée par je sais pas qui m'a dit que c'était possible ? Donc voilà, je sais pas quoi dire d'autre que ça, mais moi je suis un peu perdu.
Je voudrais revenir sur l'idée qu'on vit en société. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Truffaut, L'enfant sauvage. Quand il n'y a pas de société, il n'y a pas d'humanité. Bon. Donc forcément, on est déterminé par tout ce qui nous entoure, par l'histoire, par tous les déterminismes que vous avez évoqués. Il n'empêche que s'il n'y avait que ces déterminismes, il n'y aurait pas d'évolution. Et le pilote automatique, il nous emmènerait où il veut et on n'existerait pas. Donc c'est quand même dans cette petite carte de possibilités que vous avez évoquée tout à l'heure qu'on peut changer les choses. Hein, quand Camus il est dans la peste, je ne peux rien contre la peste. La seule chose que je puisse faire, c'est la combattre. Et moi je pense que c'est ça qui donne du sens à nos vies.
Non, c'est vrai, peut-être pour revenir un peu sur l'enfant sauvage, c'est donc l'histoire de Victor qui a été trouvé dans l'Aveyron, c'est au XVIIIe siècle, juste après la Révolution française, et il y avait un très grand nombre d'enfants qui étaient abandonnés, certains réussissaient c'est trop comment à survivre. Et quand on a retrouvé Victor et qu'on a voulu le socialiser, en fait, cette socialisation n'a pas réussi à se faire, malgré le travail extraordinaire de Jean Étard. Et on en est arrivé donc à la conclusion que si l'enfant humain n'était pas pris en charge par une communauté humaine, et notamment s'il ne baignait pas dans ce qu'on appelle un bain de langage, en fait, l'humanisation, l'accès donc déjà à la posture du corps, une posture droite, au langage, à la capacité de penser, ne se développait pas, se sclérosait en fait.
Donc, oui, ça nous amènerait vraiment à dire que ce que nous sommes, nous le devons d'abord et essentiellement, fondamentalement aux autres. Je suis ce que je reçois des autres. Voilà. Et essentiellement par l'intermédiaire de ce langage commun qui nous structure et qui véhicule un certain nombre de valeurs, de pensées, voilà. Donc, qui nous forme dans l'être que nous sommes. Ouais. Ouais, ouais. Donc, du coup, la causalité, là, voilà, elle se présente pleinement. Alors, du coup, est-ce que le libre arbitre est une illusion ? La définition que Freud donne de l'illusion est intéressante. Qu'est-ce que c'est qu'une illusion ? C'est ce qui est le produit d'un désir. Voilà. Et donc, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire, c'est parce que nous désirons le libre arbitre, c'est-à-dire croire que nous sommes libres, qu'effectivement, nous nous posons comme être capable de décider par nous-mêmes, d'être maître de nos pensées. L'arbitre, c'est qui ? Mais l'arbitre, c'est moi. C'est le moi, avec un M majuscule. C'est moi qui décide. C'est moi qui suis maître de mes choix. C'est moi qui appuie sur la pédale de frein au feu rouge parce que je veux appuyer. Et si je ne veux pas, j'appuie sur l'accélérateur et je le grille. Voilà. C'est bien moi qui suis maître de ce que je fais. Voilà. Et donc, de ça, enfin, ça, on ne peut pas me l'enlever. Pourquoi ? Parce que si on me l'enlève, qui suis-je ? Voilà, le libre arbitre, ce n'est pas une question vague. C'est-à-dire, c'est le fondement même de mon identité, de ma singularité. Je suis l'être que je suis parce que je suis capable de dire « je ». Et si je suis capable de dire « je », ça veut dire que je suis capable de me distinguer de ce qui n'est pas moi, des autres. Donc, je suis aussi capable de me détacher des autres. Oui, je suis la fille de mon père et de ma mère, mais je ne suis pas mon père et ma mère. Et si je veux, je peux aller contre tout ce qu'ils m'ont enseigné. Là, je prouve véritablement ma liberté. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas qu'une illusion ? Voilà, Freud dit d'où ces illusions, là. Hein ? Quel désir ? L'inconscient règne. Voilà. Plus je veux affirmer ma liberté, plus je ne fais qu'attester, en fait, tout ce qui me détermine à vouloir affirmer ma liberté. Ouais.
Moi, je voulais juste revenir sur...
Je pense que tout le monde réfléchit. Tout le monde est capable de réfléchir, même si on n'a pas la culture, on a tous un acquis de la vie, de l'expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas à le faire et qui ne se sentent pas capables de le faire. Qui ne se sentent pas capables de raisonner, mais je pense que tout le monde est capable de le faire, et ce raisonnement et cette réflexion n'est pas plus mauvaise quand on n'a pas forcément la culture ou quand on n'a pas forcément l'éducation, le savoir, etc. Mais tout le monde est capable de le faire, mais il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas à le faire.
C'était juste.
Alors, je ne connaissais pas cette définition de l'illusion de Freud, c'est très intéressant. Et justement, on peut penser, en entendant, que quelqu'un qui affirme justement qu'il est libre, c'est justement parce qu'il ne l'est pas. Parce qu'il veut l'être. Et donc, en fait, dans le langage, on peut détecter les gens qui sont plus ou moins en mode automatique. Des gens qui parlent toujours en « je veux »,« il faut ». Et c'est des expressions qui, si déjà on arrive à s'entendre soi-même en train de dire ça, on peut ensuite se poser des questions, se dire « est-ce qu'il faut vraiment ?» ou « est-ce que c'est nécessaire ?» Là aussi, c'est une remarque que fait... alors c'est un moine bouddhiste, qui est Thich Nhat Hanh, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent probablement, qui dit qu'il faut faire attention justement au il faut et au je veux parce que ça veut dire que c'est un impératif catégorique en quelque sorte, alors qu'on ne s'est pas donné la peine de penser la situation, on est vraiment en mode automatique.
Oui, c'est-à-dire
on coupe le micro.
Voilà. merci. Ça veut dire effectivement que quand je dis « je veux », je suis ignorant de ce qui cause mon vouloir. Spinoza donne quelques exemples que je trouve assez remarquables. Le peureux croit librement choisir de fuir. L'enfant qui a faim croit librement désirer le lait. La femme en colère croit librement qu'elle peut jeter toutes les affaires de son mari à sa figure. Enfin, voilà, c'est-à-dire, dès que je crois que je suis effectivement libre et que ça provient de moi, il suffit simplement d'analyser un tant soit peu l'attitude dans laquelle je me trouve, et notamment l'attitude émotionnelle, pour découvrir en fait dans l'émotion ce qui va causer mon comportement. Je ne suis libre que parce que je me crois libre, j'ai l'illusion de ma liberté, que parce que je suis ignorant des causes qui me déterminent. Oui.
Nous sommes donc tous déterminés, peut-être aux trois quarts dans le meilleur des cas. C'est vrai qu'il faut certainement avoir un niveau de conscience, peut-être par l'éducation, pour regarder les autres déterminés autour de soi, avoir un minimum d'empathie aussi pour briser nos propres chaînes. Et comme il a été fait allusion par deux fois à une religion, je ne suis pas certain que les religions, ces sectes qui ont réussi, je ne suis pas certain que ça soit une aide pour le libre arbitre, quelle qu'elle soit.
Alors, sauf peut-être que le bouddhisme n'est pas tant une religion que ça. Ça se veut d'abord une philosophie. Donc, l'intérêt du Bouddha, c'est d'amener les individus à ce qu'il appelle l'éveil. Et l'éveil, qu'est-ce que c'est si ce n'est justement cette capacité peut-être à penser par soi-même, ce sur quoi on reviendra, c'est pas penser par soi-même, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Donc, dans cette idée-là, qu'en fait, il faut peut-être distinguer ce qui est de l'ordre de la conscience et ce qui est de l'ordre de la pensée, et que la pensée, c'est un dur apprentissage. Voilà. Il y a quelque chose qui nous est communiqué dans le bouddhisme.
Je serai plus terre à terre. Combien de gens massacrés au nom même du bouddhisme?
Oui. Mais après, il y a d'autres questions qui viennent se greffer là-dessus. Si on pense qu'à l'enseignement du Bouddha, voilà, il y a quelque chose qui, en tout cas, demande au sujet d'accéder à son propre être, quoi. Même si c'est pour se dissoudre ensuite. Mais voilà.
Merci. Je veux juste répondre à certaines personnes, mais du coup c'est un peu difficile de suivre parce qu'il y a beaucoup de monde. Pour la question d'une personne qui serait mentalement affectée et qui ne serait pas en possession de ses moyens, moi j'associe pas l'existence du libre arbitre à fait que la responsabilité. Et donc, en justice, on considérerait quelqu'un comme responsable si justement il était en possession de ses moyens. Dans ce cas-là, ça ne veut pas dire qu'il aurait pu faire autrement, qu'il n'était pas déterminé à faire ça. C'était juste qu'il était conscient et qu'il l'a quand même fait. Mais, de toute manière, il n'aurait pas pu faire autrement. Mais c'est juste qu'il était en pleine possession de ses moyens. Ensuite, Oui. Pour moi, il n'y a pas de discontinuité dans le déterminisme quand on prend conscience de quelque chose. Si on en prend conscience, c'est parce qu'on était déterminé à le faire. Ben oui, parce qu'on ne peut pas arriver comme par magie à ce stade-là. Et ensuite, une fois qu'on y est, c'est juste qu'on augmente en quelque sorte sa puissance d'agir parce qu'on commence à, on commence à intégrer un peu d'autodéterminisme dans cette longue chaîne. On commence à s'auto-influencer, mais on était déterminé à le faire. Donc, au final, on reste déterminé, c'est juste qu'on commence à réfléchir sur soi et à un peu plus diriger son bateau. Mais le fait qu'on soit là, c'est parce que le vent nous y a poussé et on fait quand même que suivre le courant, c'est juste qu'on essaye, on prend conscience de la barre et on essaye un peu de la prendre.
Mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet à une colombe de voler ? À le vent et puis l'air, en fait. Il faut qu'il y ait cette résistance de l'air pour que la colombe puisse voler. Et qu'est-ce qui va permettre aux humains de voler, en fait, c'est toute notre connaissance de la physique. C'est-à-dire la liberté, elle ne se pense pas nécessairement contre le déterminisme, mais elle se pense au contraire par la connaissance de plus en plus, une connaissance de plus en plus profonde, de plus en plus fine, des déterminismes qui nous déterminent. Et c'est ça quand même qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire, l'animal, il fonctionne comment ? Il fonctionne parce qu'il est par la cause, parce qu'il est déterminé. Et qu'est-ce qui fait que l'animal n'accède pas à la liberté ? C'est justement parce qu'il n'est pas capable de prendre conscience des causes qui le déterminent. Prendre conscience des causes qui nous déterminent, c'est pas nécessairement s'extraire du déterminisme, au contraire. Plus je prends conscience de ce qui me détermine, plus je prends conscience à quel point je suis déterminée. Mais c'est cette prise de conscience qui me permet de passer des causes aux raisons. C'est-à-dire, à partir de là, je peux prendre le gouvernail et ne plus simplement être ballotté par le vent ou ballotté par les flots et amené là où la rivière veut m'amener. À partir du moment où je commence à savoir naviguer, eh ben je peux décider de partir d'un point A pour aller à un point B. Ça ne veut pas dire lutter, enfin ça ne veut pas dire s'extraire du courant. Ça veut dire être capable de mettre le courant à mon service, au service de ce que, pour le coup, je veux faire. Et là, la volonté, elle semble réintervenir sous le mode où être libre, c'est vouloir, mais vouloir par une décision qui est totalement éclairée, c'est-à-dire par un savoir qui guide mon vouloir. Oui.
Oui, j'avais déjà le micro en main quand tu as commencé à parler des animaux. Or, justement, il me semble qu'à ma connaissance, l'humain est le seul animal qui ne vit pas en reproduisant systématiquement le mode de vie de ses ancêtres. Ce qui, semble-t-il, met en évidence qu'il y a bien une part de vie qui, pour l'humain en tout cas, qui est autre que qu'il est déterminé. Sinon, il n'y aurait pas eu cette évolution. Et dans cette part de vie, j'y introduis notamment le langage.
Alors, ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question pourquoi ? Pourquoi on ne reproduit pas ce que nos ascendants ont fait ? C'est peut-être là où la question du sens d'une existence individuelle commence à se poser.
Individuelle, je ne sais pas. Je pense que bon, c'est surtout une œuvre collective.
C'était vous. Parlons de collectif.
Oui, non, mais ça veut dire que il y a eu des moments où réaliser quelque chose qui n'était pas dans le programme. Et c'est donc bien, et là, bon, je peux pas, je sais pas, moi. Mais par exemple, le mot, tout d'un coup, l'humain a disposé de quelque chose qui fait que quand il dit fourchette, il sait ce que c'est. Si il y a pas de, même s'il n'y a pas de fourchette sous ses yeux, il peut se la représenter et en concevoir l'usage. Et en plus, des fourchettes, à cette époque-là, il n'y en avait pas. Non, non, mais il me semble que c'est une des ruptures qui fait que l'humain a évolué. L'humain a pu penser les choses par les mots alors que les choses ne sont pas là.
Le mot, c'est l'absence de la chose.
Ouais. Et bon, pour moi, c'est un exemple, mais le savoir qui s'est construit, les sciences qui sont construites, tout ça, bon, c'est une longue histoire. Et en tout cas, on ne peut pas dire qu'on n'est pas héritier de cela. Mais c'est ce qui nous permet effectivement d'inventer, de continuer à inventer une façon de vivre. Et moi, si je regarde mes petits-enfants, je sais très bien qu'ils ne vont pas vivre comme j'ai vécu. Hein.
Ils introduisent de la discontinuité dans la continuité. Oui. Alors moi, je voulais revenir sur les animaux, parce que pour moi, on ne peut pas compter sur l'instinct avec des animaux, qui est quand même très puissant. Et est-ce que ce n'est pas leur libre arbitre à eux, cet instinct-là? Parce qu'ils ont tous des instincts différents, et leur diversité est telle qu'on ne peut pas non plus négliger tous ces instincts à nous. Et donc, voilà, pour moi, c'est aussi une sorte de libre arbitre, disons, de sentir, de faire, de voir autrement que nous, et de voir la réalité de façon différente, avec un instinct, et des instincts très très différents les uns des autres.
Alors c'est vrai que cette question de l'animal, elle fait couler beaucoup d'encre. Parce que parler d'instinct, si on l'entend avec la définition qu'on aurait pu donner du mot, ne serait-ce même qu'au début du XXe siècle, on était vraiment dans une logique déterminée. C'est-à-dire, on ne reconnaissait pas cette pluralité que pouvait avoir l'animal, presque cette forme d'intelligence, en fait. Voilà. Aujourd'hui, les recherches évoluent énormément. Et effectivement, la question de la causalité dans le monde animal est sérieusement remise en cause aussi. Oui, oui, oui.
Alors, justement, pour illustrer ça, je vais donner juste un exemple. Les mésanges, a priori, ne sont pas programmés pour aller décapsuler des bouteilles de lait et boire dedans. Et pourtant, on s'est aperçu de ça à Londres. Je ne comprenais pas pourquoi les bouteilles de lait qui étaient livrées à Londres dans des bouteilles en verre avec une petite capsule, il y en a plein qui étaient ouvertes. Alors, ils se posaient la question et puis... À force d'observation et de surveillance, ils se sont aperçus que c'était les mésanges qui arrivaient, hop, qui avaient compris, qui avaient réussi à décapsuler ces bouteilles pour venir boire, et qui transmettaient l'information à leur père. Et ensuite, ben, il y avait donc énormément d'oiseaux, de mésanges qui utilisaient la même pratique pour se nourrir avec du lait. Donc, penser qu'il n'y a que l'homme qui est capable de culture, je crois que c'est un peu ce qu'on appelle le spécisme, bien je ne suis pas trop intéressé à ça, mais je pense qu'on a tendance à beaucoup trop s'opposer aux animaux alors qu'on aurait beaucoup à apprendre et ça nous donnerait un petit peu d'humilité de voir que finalement on n'est pas si loin d'eux, même si on s'est développé et qu'on est du côté de ceux qui dominent en plus actuellement. Mais finalement, il y a un côté de cette relation aux animaux, il y a un côté qui se rapproche du racisme qu'on pouvait trouver il y a 5 siècles de ça chez nous.
C'est à moi. Moi, je voulais explorer un peu ce qui a été dit par monsieur sur
le fait de penser, d'être empêché de penser, qu'est-ce qu'il faut pour penser? Parce que pour prendre une décision, pour exercer son libre arbitre, il faut construire un raisonnement. Et on l'a vu avec l'exemple de Victor ou d'autres, c'est que le raisonnement, il s'appuie beaucoup sur du langage, sur des mots, les concepts, on ne peut pas les avoir sans les nommer. Donc on a cette chose-là qui peut nous empêcher de penser, c'est la déformation, la torsion du langage, des mots qui sont employés pour d'autres. Orwell avait bien montré ça dans 1984. Et on peut en faire l'observation au quotidien, dans les bulletins d'infos, etc., de mots qui sont employés pour dire d'autres choses. Quand les Américains vont en Irak, ils disent qu'ils vont rétablir la démocratie. C'est un exemple, mais on peut en trouver plein. Et donc il y a cette question du langage et là, cette question du savoir. Parce que ce qui nous empêche de penser, ça a été dit, nos émotions nous perturbent beaucoup, et en particulier la peur. Machiavel dit qu'un truc comme qui contrôle la peur des gens maîtrise leurs âmes. Quand on ne connaît pas une chose, c'est facile de nous effrayer avec. C'est facile de nous faire peur des Arabes ou du virus ou de je sais pas quoi, à partir du moment où on n'est pas compétent sur la question. Donc contrairement à ce qui a été dit une fois, c'est que je pense que la culture, le savoir sont des éléments fondateurs du libre arbitre. On a besoin, plus on en sait, plus on est capable de prendre des bonnes décisions. Et le bon sens paysan ignorant ne suffit pas. Et alors, ce qui peut nous empêcher aussi, c'est tout ce qui est les dogmes, hein, tout ce qui est à partir du moment où il y a une vérité révélée, on a parlé des religions, si la religion nous dit ça, on n'a plus le droit d'y penser, on n'a plus le droit de le penser, on n'a plus le droit de le mettre en question. Donc attention à tout ce qui est dogme, mais les dogmes, ils arrivent. Bon, il y a des religions on fait un fonds de commerce, mais il y en a pas mal d'autres aussi. Et puis, tout ce qui est aussi technique de manipulation, si c'est ça qui peut nous empêcher de prendre des bonnes décisions. On a parlé du langage, on a parlé des dogmes, et je pense que dans les choses qu'on pourrait faire pour éduquer les gens, et dès le très jeune âge, c'est éduquer à la communication. Enseigner la communication, les techniques de communication. Qu'est-ce que c'est qu'un message? Qu'est-ce que c'est qu'un émetteur, qu'un récepteur, qu'un cadre de référence, que des parasites, etc. Et pour nous apprendre dès le plus jeune âge, c'est facile de faire ça avec des enfants, avec des jeux très simples. Comprendre ce qu'on nous raconte. On nous raconte un truc, mais qui le raconte? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il utilise comme mot? Qu'est-ce qu'il utilise comme référence, etc. Donc voilà, l'intention, l'intentionnalité, oui, super important évidemment. Voilà, donc je crois que tous les pouvoirs, tous les dictateurs, etc., vont dans le sens de réduire l'ignorance, augmenter l'ignorance, réduire la culture, réduire tous les accès au savoir, quel qu'il soit. Donc pour le libre arbitre, il faut vraiment s'enrichir, se nourrir en permanence de connaissances. Et de vocabulaire.
Je voudrais revenir un instant sur ce charmant animal qui est la mésange, à propos d'une certaine adaptabilité des animaux. Certes, la mésange a pu s'adapter aux bouteilles de lait, mais c'est pas elle qui a inventé la bouteille de lait. Et pour revenir tout à l'heure sur la science et les progrès scientifiques et techniques montrent qu'on n'est pas entièrement déterminé, sinon on n'aurait pas évolué, je voudrais évoquer ici ces deux magnifiques réalisations qu'ont été Tchernobyl et Fukushima.
Je pense que pourrait tenter de conclure. La réflexion collective a été dense, elle a été riche. Alors, Tchernobyl, Fukushima, tous les drames que l'humanité a pu traverser dans l'histoire, en est-elle responsable ou pas ? C'est vraiment la question qui se pose à nous, non pas tant pour le passé que pour demain. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes déterminés à vivre le futur qui s'ouvre à nous, ou est-ce que on pourrait quand même être un petit peu arbitre de ce qui va nous arriver demain avec les connaissances qui nous ont été transmises, notamment, je pense, au GIEC, entre autres, mais pas que, hein, l'ensemble de notre savoir. À partir du moment où on sait que nous sommes soumis à des causes, et que penser, c'est pas simplement avoir conscience de ce que nous pensons ou de ce que nous ressentons ou de ce que nous voulons faire. Penser, c'est un acte qui demande une éducation, qui demande un entraînement, qui demande une pratique. Platon nous en donne l'exemple le plus flagrant en nous présentant à chaque fois le personnage de Socrate, qui est un personnage qui va de par les rues, qui interroge les gens, qui prend le temps de s'asseoir sous un olivier ou autre et discutons, pensons, élaborons les choses. Voilà, si tu me dis ça, moi je peux aussi te répondre ça. Et toi, qu'est-ce que tu peux me répondre? Tu dis que tu sais quelque chose, alors ben, dis-moi ce que tu sais. Et accepte que je te questionne sur ce que tu dis savoir. Afin de savoir si, justement, ensemble, essayons de voir si ce que tu le sais vraiment. Et si ce que tu veux, et bien en fait, tu le veux vraiment. Voilà. Et à partir du moment où on commence à questionner, on commence à s'arrêter, on commence à prendre le temps de s'analyser, de se regarder soi-même, soit avec soi, mais aussi soit avec autrui, parce que le regard de l'autre, la parole de l'autre, la manière par laquelle l'autre pense ben, peut m'amener à me décentrer de moi-même, et ben, ça peut me permettre de remettre en cause un certain nombre d'éléments qui me constituent, à me remettre en cause, à voir les choses différemment, et peut-être aussi tout simplement de suspendre mon action, de suspendre mon comportement et de prendre le temps de savoir ce que je veux vraiment, ce qui compte effectivement pour moi. Et c'est là où Hannah Arendt nous rappelle, suite à une phrase remarquable d'Eichmann qui disait « Mais oui, je suis responsable, c'est bien moi qui ai commis les actes dont on m'accuse, mais je ne suis pas coupable. » Je ne suis pas coupable, pourquoi? Parce que ben, je faisais partie d'un système, donc moi, en fait, je ne fais que suivre les ordres. Je suis causée par une éducation, par une famille, par une langue, par un collectif qui m'a amenée à penser comme ça. Tout le monde pensait comme ça, pourquoi moi j'aurais pensé autrement? Tout le monde agissait comme ça, pourquoi moi j'aurais agi autrement? Et puis en prime, vous me reprochez quelque chose, mais je tiens quand même à vous dire que ce qu'on m'a demandé de le faire, eh ben, moi je l'ai bien fait. Non, ouais. Vous voyez ? Donc, j'ai pensé quand même, j'ai élaboré toutes mes règles, voilà. On gazait bien dans mes camps, voilà. Et puis, on aurait pu mieux faire. Hein. Mais malgré tout, quand même, on a eu un taux de rendement qui n'était pas trop mauvais. Donc, qu'est-ce qu'on peut me reprocher ? J'ai fait ce qu'on me demandait. Et Hannah Arendt, elle dit, c'est justement là où le bât blesse. C'est-à-dire, c'est là où on vous le reproche. Parce que, en tant qu'être de raison, l'humanité a cette capacité de pouvoir penser. Et penser, qu'est-ce que c'est ? C'est justement être capable de juger et d'analyser ce que l'on me demande. La société dans laquelle je suis. C'est-à-dire être capable de faire ce pas en arrière pour prendre la responsabilité de ma propre personne. Ce que je le fais non pas parce qu'on me le demande, non pas parce que je suis le produit d'un héritage ou autre, mais parce qu'effectivement, ce que je vais faire, je me l'approprie au sens où je le fais en mon nom. Et c'est parce que c'est mon nom que j'ai à en répondre. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Du coup, penser, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est un acte courageux, c'est un acte qui ne peut se faire qu'à l'âge adulte. C'est pourquoi on dit qu'il y a un âge de raison, qui fait suite à tout un apprentissage. Il faut effectivement apprendre aux enfants un ensemble de connaissances, la manière dont fonctionne le monde, la manière dont ils sont causés, d'où ils viennent, quel est leur héritage familial, quel est l'héritage collectif. Il faut qu'ils se l'apprennent pour se l'approprier et ensuite pour pouvoir faire des choix effectivement en toute connaissance de cause. Et penser, c'est, dit Hannah Arendt, ce deux en un qui demande le passage de la minorité à la majorité. Si on veut être majeur, si on veut être adulte, aussi bien individuellement qu'au niveau d'un collectif, il faut accepter ce temps de réflexion, ce temps où on ne sait pas, ce temps où on s'interroge, pour pouvoir effectivement ensuite prendre des décisions dont on peut rendre raison. Raison, non pas dont on peut justifier les causes, mais dont on peut rendre raison devant soi, devant le monde, et plus important encore, ce n'est pas les anciens qui nous intéressent, c'est que nous avons à en rendre raison devant ceux qui viennent. C'est devant les générations qui vont être adultes et celles qui ne sont pas encore là, dont nous devons aujourd'hui justifier les actes et les choix que nous faisons. Et en ce sens, le libre arbitre, ce n'est pas une illusion, c'est un lourd fardeau. Alors, je vous ai dit en commençant que nous étions ici grâce à une invitation de la mairie de Fleury, et Madame Le Maire nous fait le grand honneur et surtout la joie d'être avec nous. Donc, je vais lui passer le micro, mais je voudrais qu'on la remercie très chaleureusement pour son invitation. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, quelques mots, je ne veux pas être très long parce qu'il y a un verre de convivialité qui va nous permettre de prolonger les échanges. Je suis arrivée en cours de route puisque j'étais justement au lycée Jean Zay, au conseil d'administration, voilà, où je siège, et où vous tenez un café philo mensuel. Et je vais juste consacrer mes mots à cela, à vous remercier non seulement pour votre présence ici, ce soir pour animer ce café philo qui manifestement avait un public qui l'attendait, mais pour ce qui est fait par Philomania et par leurs intervenants plus globalement, parce que ce que vous faites, ce que vous nous aidez à faire, c'est à nous faire mûrir, à nous faire grandir, à penser, hein, à reprendre toutes les questions du libre arbitre, et à construire, à avoir un collectif composé d'individus. Et un collectif construit, composé d'individus profonds. Et je crois que dans les temps que nous traversons, la société qui est la nôtre, c'est extrêmement précieux. Et pouvoir confronter des points de vue, pouvoir échanger des arguments, pouvoir échanger des approches de manière apaisé comme on peut le faire dans un café philo, c'est plus que précieux. Et moi, je suis toujours heureuse quand on a cette occasion de le faire, à faire les degrés, d'apprendre à le faire, de progresser ensemble. Je crois qu'on doit multiplier les formats. Et voilà, pour nous aider à faire ça ce soir, donc je voulais vous remercier la présidente, Mme Cano, qui est venue voir dans mon bureau au conseil régional au départ. On a une longue conversation. Et puis on s'est dit, bon, il y a un truc à faire à Fleury. Moi, je rêve que cette ville soit une ville de débat. Alors, pour rien vous cacher, au conseil municipal, je vois mon adjoint à la culture qui est au fond, Bernard Martin, qui a suivi avec l'équipe de la bibliothèque qu'on remercie aussi. Bernard Martin ne contredira pas. On a l'habitude au conseil municipal de débattre beaucoup. Et moi, je suis un produit de la démocratie, un produit de la politique. Je crois fortement à la politique parce que je pense que c'est une manière aussi de baisser le niveau, très paradoxalement, de baisser le niveau de la violence dans la société, parce que on échange sur, et c'est pas rien, on sait pas seulement on vote sur tel truc ou tel truc, non. On confronte des visions du monde, et donc ce qu'on a dans les tripes, qu'on met en action,
Et on le fait de manière, excusez-moi, mais apaisée, policier. Alors oui, de temps en temps, tant mieux, mais quand c'est la vision du monde qui est en jeu, vaut mieux que ça se fasse par la parole et ou par le vote, plutôt que en se tapant dessus. D'ailleurs, sinon, on voit ce que ça produit. Donc je crois fortement dans le débat politique, mais je crois dans le débat au quotidien. Et moi, je recherche les manières dont on peut apprendre aussi aux jeunes générations à débattre. Je pense qu'il y a plein d'initiatives à mener chez les tout-petits aussi pour apprendre à s'expliquer plutôt que à retourner une barre à son voisin quand il nous a piqué un jouet et qu'on considère qu'il l'a depuis trop longtemps. Mais aux plus jeunes, aux adolescents, alors il y a des formes très intéressantes, je pense au débat mouvement ou des choses comme ça, qui permettent d'apprendre à construire, mais à se construire et à échanger, à essayer de convaincre et puis à penser d'abord à construire sa propre pensée avant de l'éprouver face à d'autres, et puis à construire comme ça un monde en commun. Donc voilà, un grand merci pour Philomania et pour les intervenants, pour les intervenantes, parce que ce soir, je crois que vous nous avez aidé à grandir, à fleurir, et de ça, merci.
Donc, je vous propose quelques douceurs. Voilà. Le buffet est ouvert. Et tout ça pour prolonger nos échanges en toute convivialité. Merci.
Vous avez pris le flyer hein? On a le flyer où on a dit Thank you.
Oh là là, magnifique. Thank you.